Béni soit le Seigneur. Cet après-midi, nous allons plonger nos regards dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, du verset 5 au verset 14. Jérémie, chapitre 17, à partir du verset 5 au verset 14. Et j'ai mis comme titre au message de cet après-midi, la salle d'attente. La salle d'attente. Je regardais il y a quelques jours un reportage sur les difficultés qu'il y a pour certains endroits aujourd'hui pour avoir finalement un rendez-vous avec un médecin. Je ne sais pas si vous avez vu ce même reportage. Et en effet, la mise en place pour ces endroits connus comme des déserts médicaux, d'un box qui se trouve dans une pharmacie ou autre activité, où vous rentrez d'un coup, vous êtes en contact avec un médecin, mais par vidéo. Et donc, à la base du problème, la personne qui était interviewée, elle avait des problèmes au niveau de la gorge. Donc, le médecin lui dit, commencez à vous toucher. Est-ce que vous sentez, vous sentez quelque chose là au niveau de la gorge? Et donc, la personne, elle était là en train de s'ausculter, en essayant de comprendre. Personnellement, je ne sais pas si je serais capable de m'ausculter moi-même. Après quoi, il était question de prendre une caméra, de la placer pour que le médecin à distance y puisse voir. Après, de se mesurer elle-même la tension. Et c'est vrai que quand on n'a pas trop le choix, on essaye de faire du mieux qu'on peut, non? Et je me disais, Seigneur, c'est vrai que tout ça est en train d'amener le monde entier à ne voir que quelque chose, un écran, une image derrière. Mais qui est derrière cette image? Qui est derrière véritable? Il n'y a plus de contact. Et malheureusement, cela est vrai aussi sur le plan spirituel. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, vivent leur vie spirituelle par écran interposé. Il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucune communion véritable, même si, certes, des moments, il n'y a pas eu trop le choix. C'est vrai, il y a eu des moments très difficiles. Mais je crois que dès que ces moments s'éloignent, on doit, avec la grâce de Dieu, avec toute la sagesse nécessaire, essayer de retrouver le plus rapidement possible cette relation, cette communion dont nous avons tous besoin, n'est-ce pas? Et je lisais le texte de Jérémie et nous allons le lire ensemble et je me suis dit, tiens, j'ai le sentiment qu'on est dans la salle d'attente. L'humanité, elle est dans la salle d'attente. Et regardez ce qu'il dit le texte. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur, dira le texte, est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Comme un perdrix qui couve ce qu'il n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, l'espérance d'Israël, Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte, ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Amen. Alors, comment mettre un titre tel que salle d'attente à un texte comme ça. La première chose que je me suis aperçu, c'est que quand on est obligé d'aller chez le médecin, en généralité, il y a une espèce d'angoisse, généralement, qui monte, non ? Dès qu'on doit faire des examens, des analyses, on a tendance à essayer de réduire les apports en gras, les apports en sucre, en se disant que comme ça, les analyses, elles vont être les meilleures. On veut, en effet, que le médecin ne puisse trouver rien à nous redire, à nous reprocher, parce que c'est un peu comme si il avait sur nous tout pouvoir, non ? Et en réalité, c'est ce qui se passe à un moment quand l'humanité, comme aujourd'hui, elle se trouve en effet à passer un examen. On est tous dans une salle d'attente et il y a un moment bien précis où chacun de nous, nous allons nous trouver devant Dieu. C'est inévitable. Et en réalité, ce texte, il nous dit qu'en effet, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier. En effet, d'autres traductions, ils diront, il est comme un misérable. C'est un arbre qui ne connaît pas véritablement de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il grandit, il pousse, il évolue dans un terrain hostile. Et il ne peut rien espérer de plus. L'homme sans Dieu ne peut pas espérer plus dans sa vie que vivre une véritable sécheresse et vivre dans un lieu brûlé du désert. Quelle tristesse ! Alors certes, peut-être de loin, on regarde, on dit « Oh tiens, c'est joli cet arbre !» Mais vous savez, généralement, ces arbres qui poussent dans des lieux désertiques comme ça ont des épines. C'est la seule manière qu'ils ont, et pour se protéger, et deuxièmement, pour retenir le plus possible de l'eau. Alors imaginez d'arriver auprès d'un arbre comme ça et de l'entourer. Hein ? Il y a des arbres qui donnent envie. Moi, je me rappelle que quand mes parents avaient acheté un petit bout de terre, on avait un arbre qui il fallait 4 personnes pour l'entourer. Magnifique ! Vu la dimension de cet arbre, il donnait envie d'être là parce qu'on se sentait protégé vu la taille de cet arbre. Non ? Mais un arbre qui montre directement des épines, je ne pense pas qu'il donne véritablement envie de l'entourer, hein, et de dire « Ah, quel bel arbre !» On aurait plutôt peur. Et le texte dit que cet arbre, cette vie, c'est un mode de vie, c'est un langage aussi particulier et des principes qui sont conformes à son environnement. Quand on vit dans ce mode de vie, on ne vit pas comme on vit dans un lieu où tout va bien, non ? On est obligé à tout, à faire attention à tout. La moindre goutte d'eau a une grande valeur. Je dirais c'est une richesse. C'est quelque chose qu'on jalouse peut-être. Ça, c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Il vit un véritable désert. Mais que se passe-t-il pour celui qui s'attache à l'Éternel. Au lieu d'entendre ce mot terrible, « maudit soit l'homme », il entendra de la part de Dieu « béni soit l'homme ». Magnifique, hein ? Qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il n'y a pas de meilleure assurance. Tous les assureurs du monde ne pourront pas vous donner l'assurance que Christ vous donne. Combien de fois les assurances, en effet, montrent leurs limites au moment où on pense qu'elles vont pallier à nos besoins, on se dit « mais je suis protégé, j'ai une bonne assurance ». C'est ce que tu penses. Jusqu'au jour où en réalité tu vas solliciter ton assurance, elle va te dire « ah mais vous n'avez pas vu, il y avait écrit « sauf », à moins que, au cas où ». Mais malheureusement, vous n'êtes pas dans ce cas. Oui, mais j'ai payé pendant des années. Oui, on a bien été content de recevoir vos paiements. Mais aujourd'hui, on ne peut rien pour vous. Mais la parole de Dieu dit « béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance, parce que Dieu ne nous laissera jamais tomber. » Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alors, s'il y a un arbre pour moi qui peut nous donner l'image de cet arbre planté près des eaux, c'est par exemple le saule pleureur. C'est majestueux. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et le sol pleureur, il a tendance à pousser ses racines sur des mètres pour aller rechercher de l'eau. Et si, surtout, si à côté de lui, il y a une source, je peux vous dire que ses racines, elles vont être dedans. C'est très dangereux d'installer un arbre comme ça près d'une maison, vous savez? Parce qu'il va à la recherche de l'eau et il pousse ses racines et il s'attaque aux canalisations des maisons. Il est capable de les percer, de rentrer ses racines pour aller chercher de l'eau. Et le moment venu où ses racines auront pris de l'ampleur, les canalisations, lui, il aura de l'eau, mais pas vous. C'est la preuve que Dieu voudrait qu'on ait aussi cette hardiesse dans notre vie spirituelle, d'aller tout le temps chercher de l'eau, de ne pas se contenter, « Ah, aujourd'hui, j'ai eu 2 gouttelettes, ça va. » Moi, je crois que Dieu veut pour nous des flots d'eau vive, non? Et tous les jours, il est question pour nous de plonger nos racines vers le courant. Puisque quelqu'un qui vit comme ça, il ne voit pas venir la chaleur. C'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud. Et ce n'est pas la température dont je parle. Il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, la crainte grandit. Variant à droite, variant à gauche. Plus il y en a, plus on en invente. Mais le texte dit, il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. C'est beau de vivre sans inquiétude, non? Ça arrive. Parfois, je dirais que c'est dommage qu'on perde cette quiétude. C'est la preuve que nous avons encore davantage besoin de pousser nos racines, tous. On a davantage besoin de dire, Seigneur, si j'avais une seule racine, maintenant il m'en faut 2, il m'en faut 3. Seigneur, que toutes mes racines soient dans ce courant d'eau, parce que Dieu prend soin au fait que le courant d'eau continue à couler. Généralement, quand il y a une période de sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sèche au début? Les courants d'eau. Mais là, si je regarde bien le texte, c'est que le courant d'eau continue de couler. Même pendant les périodes les plus difficiles, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se rend toujours comme un torrent. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu jamais, certainement à la télé, les chutes du Niagara? Hein? Vous imaginez, vous dites là-bas, mais j'ai pas d'eau. Comment tu fais à dire une chose pareille? Alors, je me rappelle, mes enfants, ils m'avaient posé la question, une fois on était près de Genève, et ils ont vu ce jet d'eau, vous savez, il y a un jet d'eau à Genève. Mais ils prennent où l'eau? Ils étaient petits. J'ai dit, peut-être dans le lac, peut-être. Vous savez, les choses qui nous semblent les plus évidentes, c'est souvent celles qui nous échappent. Dans notre vie spirituelle, nous devons apprendre à regarder avec simplicité ce que Dieu nous propose. Alors là aussi, il y a un mode de vie, un langage, et je dirais des principes qui sont conformes à cet environnement. Et les deux environnements, les deux langages, les deux situations n'ont rien de commun. Alors que Dieu nous garde de parler comme on parle dans le désert. Non? Comment je peux parler comme on parle dans le désert alors que je vis auprès d'un torrent d'eau? N'est-ce pas? Que Dieu fasse que notre langage reste le langage de ceux qui vivent auprès du courant d'eau de l'Éternel. Alors je parlais de cette salle d'attente. Tout de suite après, alors déjà il y a un premier bilan. Vous savez, comme une radio, vous avez fait un radio et voilà. Béni, maudit. Deuxième chose, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Hop, là, on passe à l'auscultation. Il est question, puisque l'Éternel dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Dieu pose son oreille attentive sur notre cœur. Est-ce que notre rythme cardiaque est bon? Quand on est en paix, comment ça se passe? Tu veux contrôler le cœur? Vas-y. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, hein, alors revenez un peu en arrière quand vous étiez enfant. C'était hier. Vous aviez fait une bêtise. Vous rentrez à la maison. Et vous voyez papa ou maman, vous posez la question, t'as fait quoi aujourd'hui? Le rythme cardiaque, il passait de toup, 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 à tout, 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 non? C'est vrai ou pas? Alors imaginez que ce moment où Dieu va entendre notre rythme cardiaque, est-ce que mon cœur est en paix avec Dieu? Là, maintenant, pas demain. Vous savez, dire ça demain, le lendemain ne vous appartient pas. Vouloir renvoyer à demain, c'est ne pas vouloir faire l'effort aujourd'hui. Souvent, on a tendance à renvoyer à demain quand on n'est pas prêt véritablement à faire l'effort de suite. C'est maintenant où on est ton cœur, puisque l'Éternel dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » La réalité, c'est que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, et il est, dit le texte, incurable. Qui peut le sonder? Ça, c'est le constat humain. Qui peut changer un cœur? Il n'y a que Jésus. Non? Alors, on va à l'ordonnance. Parce que le but, c'est quand même qu'on ait du temps pour la prière. Et là, c'est deux ordonnances différentes. Regardez. Celui qui ne prend pas en compte l'ordonnance et qui poursuit sa vie comme il l'entend. Ça arrive, non? Il y en a qui vont chez le médecin, ils ont l'ordonnance, ils ont les médicaments, mais ils ne les prennent pas. Ils ne se soignent pas. Mais ils ont les médicaments. Tu l'as? Je l'ai. Je me rappelle des personnes à qui j'ai pu rendre visite et sincèrement, leur maison, c'était presque une pharmacie, fournie de tout. Et dès qu'un médicament manquait, ils retournaient chez le médecin pour être sûr d'avoir le stock. Mais, il ne fallait pas ouvrir la boîte. Tu as les médicaments? Oui, comme ça je suis rassuré. Mais pourquoi tu ne fais pas attention? Pourquoi tu ne prends pas le traitement? Ah, mais ça c'est pour les autres. Moi je sais ce que j'ai à faire. J'entends mon cœur me parler. J'entends mon corps me dire. Jusqu'au moment où tu te retrouves aux urgences, parce que du coup tu n'as pas entendu. Tu n'as pas compris ce qui t'est arrivé. Et le texte dit, il est comme un perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pendu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Qui, moi? Jamais de problème, tout va bien. Ah, j'ai pas de soucis, vous savez. Il n'y a pas de problème. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne avec qui je parlais. Et quand je suis arrivé chez lui, ce monsieur, il était entouré de plein de personnes. Et malheureusement, personne n'avait pris les précautions qu'il fallait. Je lui dis, monsieur, vous ne pensez pas vous mettre un peu en danger, là? C'est pas trop sage ce que vous faites. Oh non, mais vous savez, nous, on est durs. Rien ne nous touche. Eh bien, la semaine dernière, il m'a envoyé un message. Vous m'excusez, je ne peux pas venir au rendez-vous. J'ai été touché par... Je suis en train de partir aux urgences. J'ai plus de goût, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. Je me dis des fois, on peut être insensé. Et le texte, il le dit. Par contre, celui qui fait preuve de sagesse en appliquant à la lettre les prescriptions divines, regardez. Il dit le texte, il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. C'est là que nous devons nous trouver, frères et sœurs. C'est là que nous pouvons recevoir le conseil dont nous avons besoin. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De qui avez-vous besoin? Certainement pas d'un homme. Mais on a tous besoin du Seigneur. Alors, allons auprès du trône de Dieu. Et après... Il est écrit, toi l'espérance d'Israël, éternel. Et termine en disant, guéris-moi, éternel, et je serai qui est prêt cet après-midi à dire, Seigneur, guéris-moi, ô Éternel. Et avoir la foi pour dire, et je serai guéri. Qui est prêt à dire au Seigneur, sauve-moi. Et avoir la foi pour croire à cette promesse, et je serai sauvé. Car ma louange, ma joie, mon bonheur, c'est toi, Éternel. Alors certes, il est question, frères et sœurs, de ne pas arrêter d'aller voir votre médecin. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est de ne jamais arrêter d'aller voir le Seigneur. Je dirais que ça serait très sage, avant d'aller voir votre médecin, certes, si vous voulez diminuer au niveau des frites, des glaces, du chocolat, vous pouvez. Mais prenez mieux le temps d'aller tous les jours auprès du Seigneur. C'est lui qui nous soigne et c'est lui qui nous guérit. C'est lui qui a le pouvoir et l'autorité de nous relever. Et le médecin ne peut faire que le constat de dire, « Monsieur, madame, vous avez une super santé. » Je me rappelle d'un homme qui avait le cœur qui avait été détruit par différentes choses et qu'en venant au Seigneur, il avait demandé la grâce de Dieu. Et un jour, suite à des analyses, le médecin lui dit, « Vous savez, vous avez le cœur d'un jeune homme de 18 ans. » Et cet homme a pu lui témoigner de ce qu'il était avant. Et moi, je crois, frères et sœurs, dans le fait que Dieu est capable de nous reconstruire, de nous rétablir, de nous restaurer. Alors, prions ensemble.